Voilà, cher bien-aimé, j'aimerais revenir encore pendant quelques instants sur ce combat qui a lieu. Si nous prenons conscience de la puissance de ce monde et régie par les puissances des ténèbres, nous prendrons alors conscience qu'il y a un combat, et un combat des plus terribles. Vous vous souvenez tout à l'heure, ce que nous avions lu, c'est un combat entre Dieu et les puissances des ténèbres. C'est le reflet de deux sagesses et de deux voies morales inconciliables. Oui, bien-aimés, il y a deux voies inconciliables. Et si nous sommes de ceux qui veulent sortir de cette Babylone, nous devons être de ceux qui n'accepteront pas le compromis. Et ça, c'est quelque chose, je crois malheureusement, que c'est lorsque le Seigneur sera revenu que nous prendrons réellement conscience que nous ne nous sommes pas tenus réellement pour lui, sans compromis. Jésus n'a-t-il pas dit, si ta main est une occasion pour toi de pécher, coupe-la. Il a dit, bande-la. Non, il a dit, coupe-la. Si ton œil est une occasion pour toi de pécher, arrache-le. Mais il n'a même pas dit qu'arrache-le. Il a dit, arrache-le et jette-le loin de toi. Parce qu'il te vaut mieux rentrer borgne dans le royaume des cieux, ce royaume dont on parle, que de rentrer avec tes deux yeux dans la géhenne. Et cette géhenne, elle est quelque chose de bien réel, bien-aimé. Elle n'est pas une fable. Et nous devons nous rendre compte que si nous sommes arrivés dans ces choses dernières, si le mystère de l'iniquité arrive à son comble, si ce mystère du fils de la perdition arrive à son comble, plus que jamais, et j'aimerais simplement faire une petite exhortation avec mon cœur, plus que jamais, c'est le temps d'être fort, bien-aimé, c'est le temps d'être des vrais, c'est le temps d'être radicaux, c'est le temps de vivre et d'user de ce monde comme si nous n'en usions pas, bien-aimés. Vous connaissez ces paroles de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 7, lorsqu'il nous parle du mariage. Loin de moi d'enseigner qu'il ne faut pas se marier, mais près de moi d'enseigner qu'il est le temps de tout donner, bien-aimés. Qu'il est le temps, comme il le dira, de vivre comme si nous n'avions plus rien pour être tout pour lui, bien-aimé. Tout pour qu'il règne, bien-aimé. Parce que son règne arrive, parce que son règne est proche. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Voici ce que j'estime bon. Et Paul dit tout de même clairement que si des jeunes filles sont vierges, qu'elles restent ainsi. Paul dit clairement qu'il voudrait que tout le monde soit comme lui. Pourquoi ? Parce que le temps est court. Et regardez, si le temps était court pour Paul, mais le temps est fini pour nous, bien-aimés. Et je n'aimerais pas que nous ayons des regrets. Et si cette petite exhortation finale pouvait peut-être en frapper un, deux ou trois, même qu'un dans cette salle, frapper son esprit, toucher son cœur, réveiller quelque chose en lui en disant « Je vais lâcher, je vais tout donner, je vais dire oui, je vais dire amen, je vais arracher, parce que la fin est là, la fin vient, la fin est toute proche. » Si le temps était court pour Paul, ô combien nos heures sont comptées, bien-aimés, et qu'alors personne d'entre nous puisse regretter quand il verra paraître le Seigneur de gloire venant sur les nuées avec ses saints anges, avec son royaume, avec son autorité, avec son ordre, avec son harmonie, que nous ne nous disions pas tout à coup, « Ah, mais si j'avais été clair !» Si j'avais pu avoir avant cette vision de Dieu, si j'avais pu laisser cette semence, non seulement porter du fruit en moi, mais ne pas porter 30 ou 60, mais 100, mais sans multiplier mes talents, tout donner pour Christ, le servir, être enrôlé plus que jamais dans son armée. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Ça veut dire hors les liens du mariage. Et de la même manière que Paul parle d'une manière claire, recevez ces paroles comme des paroles prophétiques pour nous, que nous puissions tous être hors des liens du mariage de ce monde. Ce monde, il ne veut pas faire de nous des vierges. Ce monde, il veut nous marier à lui. Il veut nous attirer à son banquet. Puissions-nous être de ces Daniels qui étaient à Babylone et qui ne participaient pas au banquet. Puissions-nous être de ces Daniels, bien-aimés. C'est le temps pour être des Daniels. C'est le temps pour être sanctifiés. C'est le temps pour renoncer à soi-même. C'est le temps pour dire non, parce que le grand oui de l'Éternel arrive. Le Seigneur est tout proche, bien-aimés. Alors, ô combien cela devrait, je le crois, nous aider, bien-aimés. Nous aider à tout donner pour le Seigneur. Nous aider à pleinement vivre pour lui. Voici donc ce jeu que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi, hors des liens du mariage. Es-tu lié à une femme? Alors là, je passe. Bien sûr, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Retenons maintenant ce dernier verset. Dieu veut nous épargner toute tribulation que nous pourrions avoir dans la chair si nous ne rompons pas avec ce monde, bien-aimés. Vous savez, Dieu, et nous en parlerons, nous appelle à souffrir avec Christ. L'obéissance, elle a un prix. Et quand on paye le prix de l'obéissance, on paye alors un prix encore plus grand. Dieu nous appelle à payer un prix dans ce combat dont on parle maintenant. Et il n'y aura pas de cadeau. Le diable, il ne nous fera pas de cadeau. C'est très difficile, bien-aimé. C'est très, très difficile. Alors, si nous sommes appelés, comme le disait Jean au début de l'Apocalypse, moi qui ai part avec vous à la tribulation et à la persévérance et au royaume, ces trois choses, tribulation, persévérance et le royaume. De même, nous sommes appelés à avoir part à la tribulation, à la persévérance et au royaume. Mais pas à la tribulation de la chair, bien-aimé. Pas à la tribulation de ce monde. Pas à la tribulation d'un faux mariage. Mais à la tribulation face à ces puissances, parce qu'elles sont en vis-à-vis de nous. Parce que nous devenons ces guerriers de l'Éternel. Alors rompons tous les liens de tout faux mariage que nous pourrions avoir. Oh, si le Saint-Esprit pouvait venir maintenant. Parfois nous voulons que le Saint-Esprit fasse des guérisons, donne des paroles de connaissance. Et il n'y a aucun mal à ça, que Dieu le fasse. Mais si le Saint-Esprit pouvait nous montrer tous les liens de ce que peuvent être nos mariages, nos alliances avec ce monde. Comme ces rois d'Israël qui faisaient des alliances. Puissions-nous couper toutes ces alliances et revenir à se confier qu'en Dieu, pour obéir qu'à Dieu, bien-aimés. Alors voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Après avoir dit, à cause des temps difficiles qui s'approchent, Paul dira au verset 29, voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais, ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Et il nous dira plus tard, bien-aimé, Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Dans ce monde de distraction, puissions-nous être de ceux qui s'attacheront au Seigneur sans distraction. Coupons les prépuces de nos cœurs, bien-aimés. Comme Moïse, quand il devait, après ce temps de désert, retourner en Égypte, et sa femme, Séphora, qui n'avait pas voulu que ses fils soient circoncis, tout à coup l'Éternel s'est approché de lui. C'était le temps pour couper les prépuces. Elle a pris une pierre, elle a coupé les prépuces de ses enfants. Qui va prendre cette pierre, bien-aimée, pour couper le prépuce de son cœur? La circoncision n'est rien. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Par la circoncision, non pas de la main de l'homme, mais celle de l'esprit. Puisse cette circoncision de l'esprit se faire en nous. Laissons-nous vaincre par Dieu. Alors nous serons ces vainqueurs, bien-aimés. Le vainqueur, c'est celui qui s'est laissé vaincre. Le vainqueur, c'est le vaincu. Mais vaincu de Dieu, capitulant devant Dieu, capitulant devant son règne, capitulant devant ses fondements. Oh, bien-aimés, prenons cette pierre que Dieu nous montre et que Dieu nous sépare en ces instants. Nous délie de toute alliance. Nous sorte de Babylone dans le nom de Jésus. Alors, nous serons cette église du Dieu vivant, cet appui, cette colonne de la vérité, quoi qu'elle nous en coûte. Nous saurons comment nous conduire dans cette église du Dieu vivant qui n'appartient pas à ce monde. L'église, elle n'appartient pas à ce monde. Elle appartient à Jésus-Christ. L'église, c'est un corps. Et ce corps, il a une tête. Et cette tête, elle s'appelle Jésus, bien-aimé. L'Église, elle appartient au ciel. Elle appartient à ce règne. Puissions-nous être cette Église, bien-aimée. Être réellement cette Église de Jésus-Christ, dont Jésus-Christ est la tête. Et si ces deux morales, ces deux puissances, ces deux dynamiques ne peuvent pas se concilier, ne soyons pas des gens conciliants. Mais c'est plus fort que nous. C'est plus fort que nous. En particulier pour des hommes et des femmes de Dieu, mais pour tout enfant de Dieu aujourd'hui, d'être conciliant. Ne soyons pas des conciliateurs, bien-aimés. Soyons des réconciliateurs. En vérité, par la croix de Christ. Et soyons clairs, pas de compromis, bien-aimés. Même si c'est dur, même si c'est difficile, soyons sur le rocher apostolique, sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui met ce fondement qui est Christ, et Christ seul, et Christ mort, et Christ crucifié, et Christ ressuscité, et Christ glorifié. Et ne voulons rien d'autre. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, ne cherchons à nous glorifier de rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, et qu'il fasse réellement de nous des gens crucifiés pour le monde, un monde crucifié pour nous. Amen. Je vous lirai encore une parole de cette même prédication d'Arthur Katz. Quand nous commençons à prendre Dieu au sérieux, afin de mettre en pratique sa parole, quand nous nous rendons compte que notre but premier dans la vie n'est pas notre carrière, notre famille, notre bien-être physique, ni notre retraite, mais l'accomplissement des desseins éternels de Dieu, au sein desquels nous avons un rôle à jouer. Quand nous commençons à prendre conscience de cela, alors nous nous tenons sur un territoire d'une toute autre nature. On arrive sur le territoire de Dieu. Ne croyez pas que ce pape sous la conduite de Josué est arrivé comme une danseuse dans cette terre promise. Ils ont dû arriver et voir ce chef de l'armée de l'Éternel qui a dit « Je viens maintenant ». C'est avec les chauffards que Jéricho est tombé, en pleine communion avec le Saint Tabernacle de Dieu, dans les lois de Dieu, dans la pratique des lois de Dieu, en communion avec Dieu, pour que Dieu soit le libérateur. Si nous voulons gagner ce territoire, à savoir renverser ces trois malédictions dont nous avons parlé tout à l'heure et prêcher le royaume de Dieu. Je crois que plus que jamais aujourd'hui, l'Église est appelée à prêcher le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu qui vient, bien sûr la plus grande des bénédictions qui vient, mais pas le royaume de Dieu pour ici, le royaume qui vient, le temps qui est court, le Seigneur qui est à la porte, la sanctification sans laquelle personne ne le verra. On est appelé à prêcher qu'on va bientôt voir le Seigneur. On le verra, bien-aimé. Moi, je suis persuadé que la plupart d'entre nous ici, nous le verrons. Nous le verrons dans les yeux, face à face, avec ses yeux de feu, bien-aimé. Alors, quand nous sortons de ce monde, quand nous ne faisons plus de compromis avec le monde, avec rien, alors nous sommes sur un territoire qui est tout autre que quand nous nous laissions porter, quand nous étions doubles, quand nous avions un habit de deux fils, quand nous déchirons nos vêtements et que nous sommes revêtus de l'obéissance, revêtus de Jésus-Christ. Alors là, attention, on arrive sur un tout autre territoire, un territoire d'une toute autre nature. L'ennemi voit cela et nous sommes repérés. Qui donc consentira à s'engager dans cette voie en sachant pertinemment que cela va aggraver son conflit avec les puissances des ténèbres? Vous voyez pourquoi on est appelé à couper toute chose. On a déjà un conflit quand on est entre deux avec les puissances des ténèbres. On a des combats, mais puissions-nous connaître la circoncision, l'authentique conversion, alors on aura des soucis d'une toute autre nature. Plus des soucis dans la chair, mais des soucis, je dirais, dans l'esprit. On sera sur un autre territoire. Et Dieu nous veut sur cet autre territoire. Si nous ne sommes pas sur cet autre territoire, nous ne pourrons pas rentrer dans cette vocation qui est la nôtre en cette fin des temps. Qui acceptera d'entrer dans ce conflit où il nous faut lutter ? Non contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances de l'air, les autorités de ce monde de ténèbres. Dieu nous appelle, écoutez ce qu'il dit, Dieu nous appelle à l'héroïsme apostolique dans l'Église. Je le répète, Dieu nous appelle à l'héroïsme apostolique dans l'Église. Et je le crois de tout mon cœur, bien-aimé. Dieu n'en a guère à faire que nous lisions des livres sur les hommes de Dieu du passé, que nous les encensions. Dieu veut faire de nous ces hommes et ces femmes de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec son peuple aujourd'hui. Pourquoi les grandes choses appartiendraient toujours au passé? Non pas que nous voulions faire des grandes choses, mais que nous voulions laisser Jésus être grand. Parce que toute grande chose qui a pu se passer dans l'histoire est venue de petits. Est venu de personnes, comme nous en parlions ce matin, qui ont compris les lois du royaume, l'abaissement pour l'élévation, l'humilité pour la gloire, la mort pour la résurrection. Oh bien-aimés, puissions-nous être de cela? Puissions-nous être de cela? Pourquoi? Pourquoi faire comme les générations passées à se nourrir de choses du passé? Dieu est celui qui était, oui, mais Dieu est celui qui est, bien-aimé. Dieu est celui qui est, et Dieu est celui qui veut être. Et parce qu'il est celui qui vient, il nous veut d'autant plus être. Parce que le temps est court, parce qu'il approche. Vous ne l'entendez pas déjà bondir sur les collines? Voyez-le, ce Messie. Lisez le cantique des cantiques. Et puissiez-vous être embrasés par le cantique des cantiques. En voyant ce bien-aimé comme le Messie, comme le Oint qui arrive. Demandez aux filles de Jérusalem, il est où? Il est où mon Seigneur? Je veux tout donner pour lui, je veux le servir. Je veux rentrer dans cette salle des noces avec lui. Je veux aller à sa rencontre dans les airs. Je veux me marier avec lui seul. Et si quoi que ce soit peut me retenir sur cette terre, parce que je l'entends venir, parce que je le vois déjà qui monte sur le treillis, j'irai à sa rencontre. J'irai à sa rencontre. Et peu importe ce que me coûtera ce combat, je serai affranchi du combat dans ma chair, du combat dans ce que Dieu... de ce combat duquel Dieu me veut libre pour pouvoir passer à autre chose. Passons à autre chose, bien-aimés. Devenons ces hommes et ces femmes faites. Dieu nous appelle à l'héroïsme apostolique dans l'Église, d'arrêter de nous gargariser, mais d'être ces héros de la foi. Il nous appelle à la dignité, à la gloire. Il veut pour nous la récompense qu'il donne à la vraie foi, cette foi que nous avons perdue depuis des siècles. Et en tout cas, cette foi que nous avons perdue aujourd'hui, pourquoi nous ne pourrions pas la vivre aujourd'hui? Pourquoi? Dieu nous appelle à l'héroïsme apostolique dans l'Église. Dieu nous a appelés à des choses qui nous dépassent complètement. Mais nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, combien de fois au cours de notre vie avons-nous dit « qui est suffisant pour ces choses ?» Il se peut que nous ayons réellement été suffisants. Comme je le disais tout à l'heure, oui, c'est comme ça. Ah. Peut-être ce à quoi Dieu appelle, ce que Dieu pourrait faire en moi. Ah, bah, Seigneur, on va dire ta grâce me suffit, comme disait l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, quand il disait ta grâce me suffit, il ne le disait pas comme le dit cette génération. Il le disait comme un homme brisé. Mais bien sûr, un homme brisé dans sa nature intérieurement, mais comme un homme brisé par les fouets, par les insultes, par les calomnies, par les assauts du diable. C'est là qu'il disait « ta grâce me suffit ». Mais vous voyez, influencé par ce monde babylonien, on dit « ta grâce me suffit, Seigneur ». On a un couple parmi nous qui peut dire, je pense quelque chose de ce que ça veut dire « ta grâce me suffit ». Quand on est en Afrique, quand on est volé, quand des sorciers font des choses contre nous, quand on va visiter des malades avec l'ulcère de Buruli, la peau a complètement creusé. Ta grâce me suffit, Seigneur. Et quand on donne de l'amour, on est attaqué, on est calomnié. On nous prend pour une secte, on nous prend pour des gens qui veulent du mal, alors qu'on veut le bien. Puissions-nous être de ce couple missionnaire qui pourra dire en vérité, ta grâce me suffit. Et que nous puissions arriver à la fin, comme Paul à la fin pouvait dire à Timothée, j'ai gardé la foi. Et il disait, je suis répandu en libation. Dans les sacrifices du temple, les libations, c'était la dernière chose que l'on faisait. Toute sa vie a été un vrai sacrifice. Il a été un vrai héros de la foi. Et à la fin de sa vie, il se répandait encore en libation. Puissions-nous être de ceux-là, bien-aimés? Puissions-nous avoir cette foi qui a été perdue? Dieu nous a appelés, pardon, je l'ai déjà lu, il se peut que nous ayons réellement été suffisants. Pour le degré de sanctification qui est à présent le nôtre, il se peut que nous suffisions. Mais dès l'instant où nous faisons nôtre les desseins de Dieu, nous ne suffisons plus. Vous comprenez? On peut se suffire quand on se laisse porter dans notre vie chrétienne. Mais il y a un moment donné où quand Dieu nous appelle, alors tout à coup là on dit, là je ne me suffis plus. Sa grâce comme je l'entendais, là, elle ne me suffit plus. Là, je suis obligé de passer par la croix. Parce que là, je ne peux plus me suffire à moi-même. Qui va abdiquer devant cela? Qui va pouvoir dire, j'irai, comme Ruth, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton Dieu est mon Dieu. Quoi qu'il m'en coûte, je te suivrai. J'irai au bout avec toi, Seigneur. Alors, on ne va pas chercher, bien sûr, la souffrance pour la souffrance. Mais quelle bénédiction quand Dieu nous met dans cette place où nous ne suffisons plus à nous-mêmes, où nous ne pouvons plus faire par nous-mêmes, où il est impossible de faire par nous-mêmes. Mais il n'y a que Christ qui peut prendre le pas en nous. Mais si on reste chacun chez soi, chacun dans nos demeures lambrissées, comme dit le prophète, comment on va faire? Allons, bien-aimés, construisons! Allons à la montagne de l'Éternel! Rentrons dans ses parvis avec des louanges parce qu'il est le roi, parce qu'il est notre maître! Alors il nous fera rentrer comme des sacrificateurs dans le Saint. Nous l'adorerons dans le Saint des Saints. Nous serons embrasés de sa sainteté, bien-aimés. Qu'il nous mette à cette place-là. Qu'il nous mette dans ce creux du rocher, bien-aimés. C'est toute ma prière. C'est toute ma prière du fond du cœur. Dès l'instant où nous faisons nôtre les desseins de Dieu, nous ne suffisons plus. Alors, ou bien nous demeurons en Christ, ou bien nous tomberons. Ou bien nous demeurerons en Christ et qu'en Christ. Et je crois que dans ces choses dernières, seul celui qui sera réellement en Christ et qui ne s'appartiendra plus réellement à lui-même, qui aura fait l'expérience Et comme je l'ai dit, pas une expérience dans le passé, mais qui vivra Christ, qui demeurera réellement en Christ, seul celui-là tiendra. Et non seulement il tiendra, mais il pourra être utilisé par Dieu. Je suis certain que des temps difficiles viennent. Ils ont déjà commencé, si on arrive à les voir. Mais ils vont s'intensifier de plus en plus. Et tiendra celui qui ne s'appartiendra plus à lui-même. Celui qui appartiendra encore au monde, même sans le savoir, le saura. Il y a quelques années de cela, nous avions reçu une parole prophétique. J'arriverai peut-être pas à la citer par cœur, mais elle voulait dire cela. Le temps vient et vous y êtes, où chacun saura ce que veut dire garder mes commandements, où chacun saura ce que veut dire m'aimer. Dieu nous dit que le jugement vient sur ce monde. Et il nous dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Oh, laissons-nous juger en ces instants. C'est son amour, bien-aimé. Laissons-nous éprouver par lui, séparés par lui, pour être de ceux qui ne s'appartiendront plus à eux-mêmes et qui pourront tenir et demeurer en lui. Et je pense avec tout son cœur, cet homme de Dieu dit, « Je veux vous encourager à croire qu'il y a en Christ une place qui peut être la vôtre. » Amen. Il y a une place dans les desseins de Dieu qui peut être la vôtre. Recevez cette parole comme une parole de Dieu pour vous. Je veux vous encourager à croire qu'il y a en Christ, dans ces desseins de Dieu, dans ces choses dernières, une place qui peut être la vôtre. Il suffit d'être prêt. Il suffit de commencer à obéir. Il suffit de déchirer son cœur. Que ce quelque chose qui brûle en nous puisse être déchiré derrière nous et que Christ prenne le pas. Alors nos yeux vont s'ouvrir, non seulement sur les mystères de Dieu, non seulement sur les desseins de Dieu, mais aussi sur le concret de cette place que Dieu peut avoir pour nous, très concrètement. Mais tant qu'on reste dans notre maison, on peut pas. Il faut sortir. Ces Israélites, ils devaient manger à la hâte, debout, avec un bâton, et ils devaient sortir. Sortons, bien-aimés, sortons à la rencontre de celui qui vient. Alors, il trouvera pour chacun de nous une place. Mais alors, il vous faut renoncer à vous satisfaire de votre vie naturelle. Il vous faut renoncer à vous satisfaire de votre vie naturelle. Cela veut dire qu'il nous faut consentir à abandonner ce dont nous dépendons habituellement, et notamment notre confiance dans nos propres capacités naturelles, en faisant confiance à Dieu, qui, lorsqu'il verra cette mort à nous-mêmes, permettra la résurrection de se manifester en nous et par nous. C'est l'ultime combat, bien-aimés. Le Seigneur vient. C'est l'ultime combat. Et même si je n'ai pas le temps de développer ici, j'aimerais vous... Pardon, je ne veux pas paraître orgueilleux en disant ça, mais vous donner une perle, vous donner quelque chose que vous puissiez garder dans votre cœur et qui vous aide à méditer. Quand vous regardez aujourd'hui Israël dans l'histoire, mais aujourd'hui en particulier, vous devriez pouvoir comprendre votre vocation. Vous devriez pouvoir comprendre ce que Dieu vous appelle à vivre. Israël est un peuple à part parmi les nations. Israël ne cesse d'être en butte à la contradiction. Israël ne cesse d'être accusé faussement. Israël ne cesse même d'avoir peur, ne cesse d'être en tension, ne cesse d'être oppressé, bien-aimé. Je peux vous dire que pour être Premier ministre et ministre tout court dans le gouvernement d'Israël, il faut être solide. Parfois, je médite sur les journées d'un Benjamin Netanyahou. Comme parfois, je suis acculé, épuisé, fatigué. Eh bien... Bien sûr, mes yeux se lèvent vers Jésus seul, mais je médite sur cet homme. Et parfois, vous savez, c'est comme si j'ai envie de me mettre un soufflet. Allez, debout, avance. Ce poids que tu penses avoir sur les épaules, eh bien, ce Premier ministre, ô combien plus il doit avoir un poids sur les épaules. On a une vocation, on est des témoins différents, Israël et l'Église, mais ces deux témoins, ils marchent ensemble. Et le témoignage d'Israël, ce que est Israël, doit nous instruire de ce que l'on est. Mais vous voulez savoir une chose, bien-aimés, Israël aujourd'hui, s'il commence à faire des compromis, si Israël commence à faire des compromis aujourd'hui, Israël sera détruit. C'est une évidence. Si Israël ne se tient pas, malgré la pression des nations, malgré l'oncle Sam, comme on l'appelle, hein, malgré les États-Unis qui ont été fidèles à Israël jusqu'à maintenant pour les soutenir. Même si les États-Unis lâchent Israël, Israël va être obligé face à la menace de l'Iran, face aux menaces avec ce dit printemps arabe, mais cet hiver islamique qui s'est passé ces derniers mois, Israël va être obligé de se tenir, de revenir à son Dieu, de se défendre, de se battre, d'aller au bout. Et c'est très concret ce qui va se passer, bien-aimés. C'est très réel. Ce n'est pas juste des histoires ou des contes de vieilles femmes. Ça fait partie de la saine doctrine. Il y a un combat qui se prépare et ce combat, il va se passer. Et ces desseins éternels dont on parle, ils en font partie, bien-aimés. C'est du réel. Alors, regardons, méditons sur ce peuple et soyons avec lui, bien-aimés. Et vous savez, nous venons d'entendre Arthur Katz nous dire, alors ou bien nous demeurerons en Christ, ou bien nous tomberons. J'aimerais vous dire qu'Israël ne tombera pas, bien-aimés. La parole est claire, Israël ne tombera pas. Le Seigneur viendra à son secours, le Seigneur viendra le défendre. Alors j'aimerais vous dire à vous et tout un chacun, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais devenons cet Israël, bien-aimé. Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu et celui qui lutte avec les hommes. C'est un vaillant guerrier, cet Israël. Il dit encore, Genèse 32, 28, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Et veux-tu être ce guerrier? Veux-tu t'appeler Jacob ou veux-tu t'appeler Israël? Es-tu prêt à lutter avec Dieu? Es-tu prêt à lui garder la jambe jusqu'à qu'il t'ait béni? Es-tu prêt à le rechercher? Es-tu prêt à l'aimer? Es-tu prêt à le rechercher, à lui obéir jusqu'à ce que ta vieille nature soit clouée et que la résurrection soit manifestée en toi jusqu'à ce qu'il t'ait béni de l'authentique bénédiction? Es-tu prêt à monter sur la montagne avec des mains pures et un cœur innocent, bien-aimé? Et veux-tu faire partie de ce cercle qui se rassemble pour chercher l'Éternel en vérité? Pour l'aimer réellement de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puissions-nous être à la place où Dieu nous veut pour l'aimer réellement chaque jour, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Parce qu'il arrive, bien-aimé, il arrive bientôt. Que le Seigneur ne fasse pas de nous des Jacob, mais qu'il fasse de nous des Israël, des guerriers de Dieu. Apocalypse 3, 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 2, 7, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Bien-aimé, c'est le combat pour le trône, c'est le combat pour le paradis. Et déjà, nous pourrions sentir, bien-aimés, l'odeur du règne de Dieu qui vient, l'odeur du paradis, le véritable banquet céleste. Il est là, la table est dressée, bien-aimés. Dieu est en train de nous convier à venir. Retenez bien cette parabole dans l'évangile de Luc. Dieu qui appelle les uns et les autres, tous sont des excuses. Tous sont des excuses. Et nous sommes une génération qui s'excuse aujourd'hui. Alors Dieu dit à ce serviteur d'aller chercher ceux à qui personne peut-être n'aurait pensé, bien-aimé. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt !» C'est Dieu qui nous parle, bien-aimé. « Venez, car tout est déjà prêt !» Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Alors le Seigneur va en chercher d'autres. Il va chercher ceux que l'on méprise. Oh, entends bien, il y a une place pour toi. Toi qui pourrais te dire, « Oh non !» Je peux être suffisant, je vais faire de mon mieux. Il y a une place pour toi dans le dessein de Dieu. Dieu, si nous le cherchons, nous le trouvons. Si nous lui demandons, il nous répond. Si nous frappons, il nous ouvre. Puisses-tu frapper, qui que tu sois, entende ce partage. Quelle est la porte pour toi? Je ne parle pas de venir à l'espoir, je parle qu'il y a une porte. Et si on veut me taxer de vouloir faire venir des gens à l'espoir, qu'on me taxe de cela. Je dis, il y a une porte, je dis, il y a un chemin, je dis, il y a une place. Et ne sois pas tranquille, ne lâche pas la jambe de Dieu jusqu'à ce que tu l'aies trouvé. Parce que c'est ta vie, parce que c'est ta destinée. Sois sûr de ce que tu fais. Sois sûr de quelle est ton activité. Est-ce qu'elle est réellement l'activité de Dieu? Quelle est ta vie? Est-ce qu'elle est réellement la vie de Dieu? Et coupe toutes tes alliances. Lâche tout ce que tu peux lâcher pour être enrôlé dans cette armée, pour être de ceux qui vont y aller et qui vont aller au bout. Puissions-nous ne pas être ceux qui s'excusent et qui s'excuseront toujours. Le Seigneur dira, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Et c'est après cela qu'il nous est dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oh, renonçons à nous-mêmes. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puisse Dieu ouvrir les oreilles de la surdité de ce monde babylonien. Arrêtons d'acheter, arrêtons de vendre, arrêtons d'attendre une marque de la bête à laquelle nous allons renoncer de nouveau. C'est le même mystère, bien-aimés. Renonçons maintenant, soyons marqués de la sainteté de Dieu sur notre front, sur notre main. Pensons, conformons-nous à la pensée de Christ, obéissons à Dieu et travaillons pour lui, servons-le. Sinon, obligatoirement, nous servirons un autre maître. Mais on ne peut pas avoir deux maîtres. Si on pense qu'on peut avoir deux maîtres, si on pense pouvoir être des Balaam, des Jamès et des Jambres, on ne le peut pas. On ne sera pas au banquet, bien-aimé. Mais si seulement on pouvait avoir dans le cœur, non pas simplement le fait de pouvoir aller à un banquet, mais le fait de glorifier son nom. Le fait de glorifier son nom. Le fait d'honorer son nom. Le fait de dépouiller ses puissances parce que Christ se lève en nous. Bien-aimés, puissions-nous être ces violents qui s'emparent du royaume. Vous voyez, dans les évangiles de Matthieu et de Luc, nous avons ces paroles, je lirai la première, Matthieu 11, verset 12. « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Puissions-nous être si violents? Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce qu'il y en a même qui voudront et n'y rentreront pas. Et ensuite, ils verront Abraham, Isaac, Jacob devenu Israël, manger dans le royaume de Dieu. Ils viendront, mais tu n'as pas enseigné dans nos rues. On n'a pas mangé avec toi. Allez-vous-en, qu'il leur dira. Vous qui n'avez pas voulu obéir. Eux, ils ont obéi à leur vocation. Eux, ils ont marché comme des pèlerins sur cette terre. Comment va-t-on marcher? Comment va-t-on vivre? Et on vit qu'une fois, bien-aimés. Et notre vie, comme je le dis tout le temps, elle se bâtit avec chaque aujourd'hui. Et quand il y a un aujourd'hui et qu'on est demain, on ne peut plus venir à hier. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dans Luc 16, verset 16, il nous est dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Ce texte, nous avons entendu cela dans le séminaire sur le Tikkun Olam que j'ai pu réécouter dernièrement et qui m'a beaucoup touché. Il est difficile à traduire en grec. Et le texte de Luc pourrait être traduit dans le sens que depuis le temps de Jean, le royaume de Dieu, il a fait irruption dans le monde, mais qu'il souffre de grandes violences. Vous voyez, c'est une interprétation qui ne s'oppose pas, mais qui se complète. D'un côté, nous devons être de ces violents pour rentrer dans ce royaume et y avoir part et dans notre vocation. Et d'un autre côté, le royaume, Il a fait irruption dans le monde, n'est-ce pas? Nous l'avons vu ce matin. Jésus nous a dit, le royaume des cieux est au-devant de nous. Le royaume des cieux est parmi vous si je chasse les démons. Donc le royaume est venu. Mais le royaume de Dieu, il souffre lui-même de grandes violences, bien-aimés. Les puissances des ténèbres, elles ne veulent pas de ce royaume. Elles veulent éteindre ce royaume. La conscience de ce royaume, la grâce de ce royaume, la force de ce royaume, l'authentique piété de ce royaume. Et soyons conscients de cela. Non seulement nous avons besoin d'être de ces violents qui rentrent dans le royaume, mais le royaume est plus que jamais aujourd'hui. Parce que telle une bête féroce, le diable se démène. Malheur à vous, terre et mer, nous dit l'Apocalypse. Car le diable sait que ses jours sont comptés. Puissions-nous savoir aussi, nous, que nos jours sont comptés. Et si nos jours sont comptés, ce royaume qui va pouvoir être manifesté. Mais lorsqu'il sera manifesté, la porte, elle sera fermée. Cette porte qui reste ouverte, elle est en train d'être battue. Elle est en train d'être par tous les moyens fermée. Parce que dans le plan de Dieu, elle se ferme, bien-aimé. Et c'est ma conclusion. Dans le plan de Dieu, elle se ferme. Luc 21 nous dit, quand donc cela arrivera-t-il, la fin du monde? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Et Jésus dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. En 1967, Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. C'est la preuve que le temps des nations est accompli, bien-aimés. C'est le signe des signes. Le signe des signes, c'est que Jérusalem est redevenue la capitale de cette nation qui, en 1948, est redevenue une nation. On a chanté la Hatikva, réalisée, bien-aimés. Donc l'espérance, elle est là. Israël est revenu sur sa terre. Les captifs reviennent, bien sûr. Et là aussi, on doit regarder ça et se poser la question. Je notais, vous voyez, bien-aimés, il y a aujourd'hui 6 millions de Juifs en Israël et 7,75 millions en diaspora. Il y a encore plus de Juifs en diaspora qui ne sont pas rentrés en Israël. Parce que rentrer en Israël, c'est un combat. Et nous devons prier pour ça. Que Dieu ramène ces captifs, parce que c'est le temps pour eux. C'est le temps pour eux, bien-aimés. Mais il ne fait pas bon vivre en Israël. Il ne fait pas bon répondre à notre vocation si nous voulons garder notre vie naturelle. Même si ce témoin qu'est Israël est un témoin que l'on peut voir plus, nous pourrions caricaturer dans les choses concrètes, naturelles, et que l'Église est appelée à être, nous dirons, plus spirituelle, même si je n'aime pas trop ce mot. Eh bien, il ne fait pas bon de vivre. On ne peut pas garder sa vie naturelle. On ne va pas, comme ça, naturellement, vivre en Israël. On paye un prix quand on va en Israël. On rentre dans le combat quand on va en Israël. On met ses enfants à l'armée quand on va en Israël. Qu'est-ce qu'on va faire, alors, nous? On va être de ces 7,75 ou on va être de ces 6 millions? Allons-y, bien-aimés. Allons-y, rentrons dans notre vocation. Le temps des nations est accompli, la porte se ferme, et ce royaume qui avait été donné à Jésus, eh bien, il souffre violence. Le diable, il n'en veut pas. Il ne veut plus que personne soit formé en Christ, sauve et soit sauvé. Alors, c'est le temps de nous battre. C'est le temps de nous battre. Et bien aimé, retenez une chose, Jérusalem a été libérée, comme le peuple d'Israël, en 1948, le jour où ils ont pu trouver et proclamer leur indépendance. Le lendemain, ils ont été attaqués. Jérusalem, depuis qu'elle a été libérée, elle a été attaquée. Il en va de même pour nous. Comme nous sommes libérés intérieurement du péché, alors ce péché va nous attaquer à l'extérieur. Mais nous sommes appelés à avoir le même destin que Jérusalem. D'être de ces amants de Sion. D'être de ces amants de Sion, bien-aimés. Soyons ces amants de Sion. Soyons ceux qui rentrent dans la destinée de Yerushalayim, bien-aimés. Et soyons prêts à aller jusqu'au bout. Et même si nous serons attaqués, nous verrons que l'Éternel sera avec nous. Bien-aimés, ce qui va se passer dans ces derniers temps, va se passer pour nous si nous rentrons sur le terrain véritable de l'obéissance. Car ce sont des esprits de démons, Apocalypse 16, 14, qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour tout-puissant. Joël 2, 15, à les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu quand elle consume le chaume. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. C'est ce qui se passe. Les puissances de ténèbres qui se liguent contre l'Éternel et contre son oint, qui se liguent contre Israël et qui se liguent contre nous. Voilà pourquoi ces fondements, ils sont si difficiles à vivre. Parce que ces puissances, elles sont à l'œuvre. Le royaume, bien-aimé, il y a besoin de le forcer parce que les puissances de ténèbres, elles le ferment. Elles s'assemblent comme une armée pour faire la guerre aux saints. C'est ce que dira le prophète Daniel, Zacharie 14, 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Oui, c'est un jour de bataille. Retenez une chose pour terminer. En 1967, Jérusalem est devenu le signe des choses dernières. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays en mai 68, en juin 67, Jérusalem, en mai 68, ce que nous pourrions appeler la révolution du péché. Mai 68, la révolution du péché. Après, bien aimé, ce baby-boom, ça veut dire qu'après la guerre de 39-45, eh bien, les gens, certainement profondément atteints par la guerre, ont fait énormément d'enfants. Certainement qu'ils voulaient, comment dirais-je, échapper aux horreurs qu'ils avaient pu vivre. Et il y a eu ce qu'on appelle un baby-boom. Mais alors, cette génération-là, elle a été la génération de mai 68. La génération de mai 68, elle est, je vous ai parlé que depuis la sortie du Moyen-Âge, ce monde a été façonné pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, avec Jérusalem en 67 et mai 68, pour moi, on a le signe là. Vraiment les signes clairs des choses dernières. Jérusalem et l'apostasie, le péché, le mystère de l'iniquité, l'esprit antichristique à son comble. Alors, je vous donnerai en conclusion quelques slogans de mai 68 pour nous faire réfléchir et pour que Dieu mette tout l'inverse dans nos cœurs, que nous puissions voir comme nous sommes attaqués dans la société dans laquelle on vit, mais que nous puissions tenir ferme, comme nous devons prier pour Israël, de tenir ferme pour que les desseins de Dieu s'accomplissent et que le libérateur vienne de Sion. Il est interdit d'interdire. Le patron n'a pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. Vous voyez, le patron, il n'a pas besoin de toi, tu n'as pas besoin de lui. Le Seigneur, finalement, il n'a pas besoin de toi, tu n'as peut-être pas besoin de lui. Ou tu as besoin de lui, mais lui, il n'a pas besoin de toi. Non, mensonge ! Le Seigneur a besoin de nous. Nous sommes appelés à nous soumettre à lui de tout notre cœur. Vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Même si Dieu existait, il faudrait le supprimer. L'obéissance commence par la conscience et la conscience par la désobéissance. Nina Hagen, une chanteuse populaire d'alors, chantait « Je n'ai aucune envie d'accomplir mes devoirs, ni envers toi, ni envers moi, je n'ai aucun devoir. » Voilà, nous sommes les héritiers de cela, bien-aimés. Et nous devons avoir conscience de cela. Voilà pourquoi une vie d'obéissance va nous coûter. Voilà pourquoi elle est aussi dure. Parce qu'on est façonné par cet esprit de mai 68. Puisse Dieu nous façonner par l'esprit de Jérusalem, bien-aimés. Puisse-t-il nous façonner par cet esprit de Jérusalem. Et puissions-nous comprendre, bien-aimés, que si nous sommes la génération la plus à craindre, cette génération issue du baby-boom, si elle a pu retourner, ou en tout cas amener à son paroxysme, les fondements du péché dans notre société, est-ce que nous ne pourrions pas être, même si nous ne sommes pas un grand peuple, mais que nous sommes, comme la Bible en parle, et comme Dieu a fait au travers de l'histoire d'Israël, avec un petit peuple, avec un reste, pourquoi ne pourrions-nous pas être ce reste qui ne pourra pas tout renverser ? C'est Jésus, c'est lui cette pierre qui va se détacher et qui va faire tomber cette statue. Mais que nous puissions être un reste qui va pouvoir affecter sa génération, qui va pouvoir croire en un espoir véritable, bien-aimé, qui va pouvoir proclamer le règne de Dieu, qui va pouvoir être enrôlé dans l'armée de Dieu. Vous savez quoi ? On est la génération la plus à plaindre, et en même temps, on est la génération qui pourrait faire le plus de différence, bien-aimé. Parce que nous baignons tellement dans le péché, que si nous voulons être d'authentiques chrétiens, nous sommes appelés à être tellement différents, bien-aimé, tellement différents, tellement sanctifiés, tellement proches de Dieu, tellement en communion avec lui, tellement obéissants, qu'il pourra y avoir en nous une telle puissance quand Dieu le voudra face aux choses dernières. Et si, avec un grand peuple, le diable a pu faire la révolution du péché, pourquoi l'Éternel des armées ne pourrait pas, avec un petit reste, faire la révolution de son règne, la révolution de son royaume? Amen, bien-aimés.
Amen.
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 Alléluia.
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 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ô Éternel, toi qui nous as choisis, fais de nous tes amis, Père Céleste. Fais de nous, ô Dieu de gloire, ces personnes qui reviennent à toi, qui reviennent à toi, qui sont changées. Fais en nous ce que veut dire le mot grec repentance, une métanoïa. Change-nous, Seigneur. Oh Seigneur, fais cette métanoïa. Change, change nos pensées, change notre vision. Fais-nous revenir à toi et change-nous, transforme-nous. Toi qui nous as choisis pour ce temps, toi qui as une place pour nous. Merci, Père, d'avoir pu me donner, de pouvoir encore donner cette exhortation. Puisse-t-elle toucher ce qu'elle doit toucher. Puisse-t-elle atteindre la cible qu'elle doit atteindre, Père Céleste. Fais ton œuvre au travers de ces paroles. Viens toucher les cœurs qui en ont besoin. Viens les amener à la repentance, teshuva, le retour en hébreu. Ramène-les à toi et fais alors une métanoïa en eux, Seigneur. Transforme-les, métamorphose-les, Père Céleste, parce qu'il se passera en nous, sera manifesté corps, âme et esprit pour faire de nous cet authentique trait d'union. Et comme sur ces ordinateurs, bien-aimés, oh, que nous soyons un trait d'union, mais avec une flèche au bout. Devenons ces flèches. Le péché, c'est manquer le but. La Torah et le Messie l'a accompli pour que nous puissions atteindre le but. Père, fais de nous ceux qui atteindront le but. Que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, afin que nous participions à ce que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et le peuple dit
Amen.